Alexandre Dumas, Actée. Actée est l'histoire d'une jeune Corinthienne qui devient la maîtresse de l'empereur Néron. Le 7 du mois de mai, que les Grecs appellent Argelion, l'an 57 du Christ et 810 de la fondation de Rome, une jeune fille de 15 à 16 ans, grande, belle et rapide comme la Diane chasseresse, sortait de Corinthe par la porte occidentale et descendait vers la plage. Arrivée à une petite prairie bordée d'un côté par un bois d'oliviers et de l'autre par un ruisseau ombragé d'orangers et de lauriers roses, elle s'arrêta et se mit à chercher des fleurs. Un instant, elle balança entre les violettes et les glaïeuls que lui offrait l'ombrage des arbres de Minerve et les narcisses et les nymphéas qui s'élevaient sur les bords du petit fleuve ou flottaient à sa surface, mais bientôt elle se décida pour ceci et, bondissant comme un jeune faon, elle courut vers le ruisseau. Arrivée sur ses rives, elle s'arrêta. La rapidité de sa course avait dénoué ses longs cheveux. Elle se mit à genoux au bord de l'eau, se regarda dans le courant et sourit en se voyant si belle. C'était en effet un des plus ravissantes vierges de l'Achaïe, aux yeux noirs et voluptueux, au nez ionien et aux lèvres de corail. Son corps, qui avait à la fois la fermeté du marbre et la souplesse du roseau, semblait une statue de Phidias animée par Prométhée. Ses pieds seuls, visiblement trop petits pour porter le poids de sa taille, paraissaient disproportionnés avec elle et eussent été un défaut si l'on pouvait songer à reprocher à une jeune fille une semblable imperfection, si bien que la nymphe Pyrène, qui lui prêtait le miroir de ses larmes, toute femme qu'elle était, ne put se refuser à reproduire son image dans toute sa grâce et dans toute sa pureté. Après un instant de contemplation muette, la jeune fille sépara ses cheveux en trois parties, fit deux nattes de ceux qui descendaient le long des tempes, les réunit sur le sommet de la tête, les fixa par une couronne de lauriers roses et de fleurs d'oranger qu'elle tressa à l'instant même. Et, laissant flotter ce qui retombait par derrière, comme la crinière du casque de Pallas, elle se pencha sur l'eau pour étancher la soif qui l'avait attirée vers cette partie de la prairie, mais qui, toute pressante qu'elle était, avait cependant cédé à un besoin plus pressant encore, celui de s'assurer qu'elle était toujours la plus belle des filles de Corinthe. Alors la réalité et l'image se rapprochèrent insensiblement l'une de l'autre. On eût dit deux sœurs, une nymphe et une naïade, qu'un doux embrassement allait unir. Leurs lèvres se touchèrent dans un bain humide, l'eau frémit, et une légère brise, passant dans les airs comme un souffle de volupté, fit pleuvoir sur le fleuve une neige rose et odorante que le courant emporta vers la mer. En se relevant, la jeune fille porta les yeux sur le golfe et resta un instant immobile de curiosité. Une galère à deux rangs de rames, à la carène dorée et aux voiles de pourpre, s'avançait vers la plage, poussée par le vent qui venait de Délos. Quoiqu'elle fût encore éloignée d'un quart de mille, on entendait les matelots qui chantaient un chœur à Neptune. La jeune fille reconnut le mode phrygien qui était consacré aux hymnes religieux. Seulement, au lieu des voix rudes des mariniers de Calydon ou de Céphalonie, les notes qui arrivaient jusqu'à elle, quoique dispersées et affaiblies par la brise, étaient savantes et douces, à l'égal de celles que chantaient les prêtresses d'Apollon. Attirée par cette mélodie, la jeune Corinthienne se leva, brisa quelques branches d'oranger et de laurier rose destinées à faire une seconde couronne qu'elle comptait déposer à son retour dans le temple de Flore, à laquelle le mois de mai était consacré. Puis, d'un pas lent, curieux et craintif à la fois, elle s'avança vers le bord de la mer, tressant les branches odorantes qu'elle avait rompues au bord du ruisseau. Cependant, la Birème s'était rapprochée, et maintenant la jeune fille pouvait non seulement entendre les voix, mais encore distinguer la figure des musiciens. Le chant se composait d'une invocation à Neptune, chantée par un seul coryphée, avec une reprise en chœur, d'une mesure si douce et si balancée qu'elle imitait le mouvement régulier des matelots se courbant sur leurs rames et des rames retombant à la mer. Celui qui chantait seul et qui paraissait le maître du bâtiment se tenait debout à la proue et s'accompagnait d'une cithare à trois cordes, pareille à celle que les statuaires mettent aux mains de Terpe, la muse de l'harmonie. À ses pieds était couché, couvert d'une longue robe asiatique, un esclave dont le vêtement appartenait également aux deux sexes, de sorte que la jeune fille ne put distinguer si c'était un homme ou une femme, et à côté de leur banc, les rameurs mélodieux étaient debout et battaient des mains en mesure, remerciant Neptune du vent favorable qui leur faisait ce repos. Ce spectacle qui, deux siècles auparavant, aurait à peine attiré l'attention d'un enfant cherchant des coquillages parmi les sables de la mer, excita au plus haut degré l'étonnement de la jeune fille. Corinthe n'était plus à cette heure ce qu'elle avait été du temps de Scylla. La rivale et la sœur d'Athènes ont prise d'assaut l'an de Rome 608 par le consul Mummius. Elle avait vu ses citoyens passer au fil de l'épée, ses femmes et ses enfants vendus comme esclaves, ses maisons brûlées, ses murailles détruites, ses statues envoyées à Rome et ses tableaux, de l'un desquels Attale avait offert 1 million de sesterces, servir de tapis à ces soldats romains que Polybe trouva jouant au dé sur le chef-d'œuvre d'Aristide. Rebâti 80 ans après, par Jules César, qui releva ses murailles et y envoya une colonie romaine, elle s'était reprise à la vie, mais était loin encore d'avoir retrouvé son ancienne splendeur. Cependant, le proconsul romain, pour lui rendre quelque importance, avait annoncé pour le 10 du mois de mai et les jours suivants des jeux néméens, isthmiques et floraux, où il devait couronner le plus fort athlète, le plus adroit cocher, le plus habile chanteur. Il en résultait que, depuis quelques jours, une foule d'étrangers de toutes nations se dirigeait vers la capitale de l'Achaïe, attirée soit par la curiosité, soit par le désir de remporter les prix, ce qui rendait momentanément à la ville, faible encore du sang et des richesses perdues, l'éclat et le bruit de ses anciens jours. Les uns étaient arrivés sur des chars, les autres sur des chevaux. D'autres enfin sur des bâtiments qu'ils avaient loués ou fait construire. Mais aucun de ces derniers n'était entré dans le port sur un aussi riche navire que celui qui, en ce moment, touchait la plage que se disputèrent autrefois dans leur amour pour elle Apollon et Neptune. À peine eut-on tiré la birème sur le sable que les matelots appuyèrent à sa proue un escalier en bois de citronnier incrusté d'argent et d'airain, et que le chanteur, jetant sa cithare sur ses épaules, descendit, s'appuyant sur l'esclave que nous avons vu coucher à ses pieds. Le premier était un beau jeune homme de 27 à 28 ans, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, à la barbe dorée. Il était vêtu d'une tunique de pourpre, d'une chlamyde bleue étoilée d'or, et portait autour du cou, noué par devant, une écharpe dont les bouts flottants retombaient jusqu'à sa ceinture. Le second paraissait plus jeune, de 10 années à peu près. C'était un enfant touchant à peine à l'adolescence, à la démarche lente et à l'air triste et souffrant. Cependant, la fraîcheur de ses joues eût fait honte au teint d'une femme. La peau rosée et transparente aurait pu le disputer en finesse avec celle des plus voluptueuses fille de la molle Athènes, et sa main blanche et potelée semblait, par sa forme et par sa faiblesse, bien plus destinée à tourner un fuseau ou à tirer une aiguille qu'à porter l'épée ou le javelot, attribut de l'homme et du guerrier. Il était, comme nous l'avons dit, vêtu d'une robe blanche, brodée de palmes d'or qui descendait au-dessous du genou. Ses cheveux flottants tombaient sur ses épaules découvertes et, soutenu par une chaîne d'or, un petit miroir entouré de perles pendait à son cou. Au moment où il allait toucher la terre, son compagnon l'arrêta vivement. L'adolescent tressaillit. « Qu'y a-t-il, maître ? » dit-il d'une voix douce et craintive. « Eh, il y a que tu allais toucher le rivage du pied gauche, et que par cette imprudence tu nous exposais à perdre tout le fruit de mes calculs, grâce auquel nous sommes arrivés le jour des nonnes, qui est de bon augure. « Oh, tu as raison, maître, » dit l'adolescent, et il toucha la plage du pied droit. Son compagnon en fit autant. « Étranger, » dit, s'adressant au plus âgé des deux voyageurs, la jeune fille qui avait entendu ces paroles prononcées dans le dialecte ionien, « la terre de la Grèce, de quelques pieds qu'on la touche, est propice à quiconque l'aborde avec des intentions amies. C'est la terre des amours, de la poésie et des combats. Elle a des couronnes pour les amants, pour les poètes et pour les guerriers. Qui que tu sois, étranger, accepte celle-ci, en attendant celle que tu viens chercher, sans doute. » Le jeune homme prit vivement et mit sur sa tête la couronne que lui présentait la Corinthienne. Les dieux nous sont propices, s'écria-t-il. Regarde, Sporus, l'oranger, ce pommier des Hespérides, dont les fruits d'or ont donné la victoire à Hippomène en ralentissant la course d'Atalante, et le laurier rose, l'arbre cher à Apollon. Comment t'appelles-tu, prophétesse de bonheur ? Je me nomme Actée, répondit en rougissant la jeune fille. Actée ! S'écria le plus âgé des deux voyageurs. « Entends-tu, Sporus ? Nouveau présage, Actée, c'est-à-dire la rive. Ainsi, la terre de Corinthe m'attendait pour me couronner. » « Qu'y a-t-il là d'étonnant ? N'es-tu pas prédestiné, Lucius ? Répondit l'enfant. « Si je ne me trompe, demanda timidement la jeune fille, tu viens pour disputer un des prix offerts aux vainqueurs par le proconsul romain. Ah, tu as reçu le don de la divination en même temps que le don de la beauté, dit Lucius. Et sans doute tu as quelques parents dans la ville. Non, toute ma famille est à Rome. Quelque ami, peut-être. Mon seul ami, celui que tu vois, et comme moi, il est étranger à Corinthe. Quelque connaissance alors ? Non, aucune. Notre maison est grande et mon père est hospitalier, continua la jeune fille. Lucius, daignera-t-il nous donner la préférence ? Nous prierons Castor et Pollux de lui être favorables. Ne serais-tu pas leur sœur, Hélène, jeune fille ? Interrompit Lucius en souriant. On dit qu'elle aimait à se baigner dans une fontaine qui ne doit pas être bien loin d'ici. Cette fontaine avait sans doute le don de prolonger la vie et de conserver la beauté. C'est un secret que Vénus aura révélé à Paris et que Paris t'aura confié. Oh, s'il en est ainsi, conduis-moi à cette fontaine, belle Actée, car maintenant que je t'ai vue, je voudrais vivre éternellement afin de te voir toujours. Hélas, je ne suis point une déesse, répondit Actée, et la source d'Hélène n'a point ce merveilleux privilège. Au reste, tu ne t'es pas trompé sur sa situation. La voilà, à quelques pas de nous, qui se précipite à la mer du haut d'un rocher. Alors, ce temple qui s'élève près d'elle est celui de Neptune. Oui, et cette allée bordée de pins mène au stade. Autrefois, dit-on, en face de chaque arbre, s'élevait une statue. Même Mummius les a enlevées, et elles ont à tout jamais quitté ma patrie pour la tienne. Veux-tu prendre cette allée, Lucius ? Continua en souriant la jeune fille. Elle conduit à la maison de mon père. Que penses-tu de cette offre, Sparus ? Dit le jeune homme, changeant de dialecte et parlant la langue latine. Oh, que la fortune ne t'a pas donné le droit de douter de la constance. Eh bien, fions-nous donc à elle cette fois encore, car jamais elle ne s'est présentée sous une forme plus entraînante et plus enchanteresse. Alors, changeant d'idiome et revenant au dialecte ionien, qu'il parlait avec la plus grande pureté, « Conduis-nous, jeune fille, dit Lucius, car nous sommes prêts à te suivre. Et toi, Sporus, recommande à Libicus de veiller sur Phébé. » Actée marchait la première, tandis que l'enfant, pour obéir à l'ordre de son maître, remontait sur le navire. Arrivée au stade, elle s'arrêta. « Vois, dit-elle à Lucius, voici le gymnase. Il est tout prêt et sablé, car c'est après-demain que les jeux commencent, et ils commencent par la lutte. À droite, de l'autre côté du ruisseau, à l'extrémité de cette allée de pins, voici l'hippodrome. Le second jour, comme tu le sais, sera consacré à la course des chars. Puis, enfin, à moitié chemin de la colline, dans la direction de la citadelle, voici le théâtre où se disputera le prix du champ. Quelle est celle des trois couronnes que compte disputer Lucius ? Toutes trois, Actée. Tu es ambitieux, jeune homme. Oh, le nombre trois plaît aux dieux, dit Sporus, qui venait de rejoindre son compagnon, et les voyageurs, guidés par leur belle hôtesse, continuèrent leur chemin. En arrivant près de la ville, Lucius s'arrêta. « Qu'est-ce que cette fontaine, dit-il, et quels sont ces bas-reliefs brisés ? Ils me paraissent du plus beau temps de la Grèce. Oh, »« Cette fontaine est celle de Pyrène, dit Actée. Sa fille fut tuée par Diane à cet endroit même, et la déesse, voyant la douleur de la mère, la changea en fontaine sur le corps même de l'enfant qu'elle pleurait. Quant aux bas-reliefs, ils sont de Lysippe, l'élève de Phidias. » « Regarde donc, Sporus !» s'écria avec enthousiasme le jeune homme à la lyre. « Regarde quel modèle ! Quelle expression ! Mais c'est le combat d'Ulysse contre les amants de Pénélope, n'est-ce pas ? Vois donc comme cet homme blessé meurt bien, comme il se tord, comme il souffre. Le trait l'a atteint au-dessus du cœur, quelques lignes plus haut, il n'y avait point d'agonie. » Oh, le sculpteur était un habile homme et qui savait son métier. Je ferai transporter ce marbre à Rome ou à Naples, je veux l'avoir dans mon atrium. Je n'ai jamais vu d'homme vivant mourir avec plus de douleur. C'est un des restes de notre ancienne splendeur, dit Actée. La ville en est jalouse et fidèle, et comme une mère qui a perdu ses plus beaux enfants, elle tient à ce qui lui reste. Je doute, Lucius, que tu sois assez riche pour acheter ce débris. Acheter ? Répondit Lucius avec une expression indéfinissable de dédain. À quoi bon acheter lorsque je puis prendre ? Si je veux ce marbre, je l'aurai, quand bien même Corinthe tout entière dirait non. Sporus serra la main de son maître. « À moins, cependant, continua celui-ci, que la belle Actée ne me dise qu'elle désire que ce marbre demeure dans sa patrie. » « Je comprends aussi peu ton pouvoir que le mien, Lucius, mais je ne te remercie pas moins. Laisse-nous nos débris, Romain, et n'achète pas l'ouvrage de tes pères. Ils venaient en vainqueurs, tu viens en ami, toi. Ce qui fut de leur part une barbarie serait de la tienne un sacrilège. Rassure-toi, jeune fille, dit Lucius, car je commence à m'apercevoir qu'il y a à Corinthe des choses plus précieuses à prendre que le bas-relief de Lysippe, qui à tout considérer n'est que du marbre. Lorsque Paris vint à Lacédémone, ce ne fut point la statue de Minerve ou de Diane qui l'enleva, mais bien Hélène, la plus belle des Spartiates. Actée, baissa les yeux sous le regard ardent de Lucius, et continuant son chemin, elle entra dans la ville. Les deux Romains la suivirent. Corinthe avait repris l'activité de ses anciens jours. L'annonce des Jeux qui devaient y être célébrés avait attiré des concurrents non seulement de toutes les parties de la Grèce, mais encore de la Sicile, de l'Égypte et de l'Asie. Chaque maison avait son hôte et les nouveaux arrivants auraient eu grande peine à trouver un gîte si Mercure, le dieu des voyageurs, n'eût conduit au-devant d'eux l'hospitalière jeune fille. Ils traversèrent, toujours guidés par elle, le marché de la ville, où étaient étalés pêle-mêle le papyrus et le lin d'Égypte, l'ivoire de la Libye, les cuirs de Cyrène, l'encens et la myrrhe de la Syrie, les tapis de Carthage, les dattes de la Phénicie, la pourpre de Tyre, les esclaves de la Phrygie, les chevaux de Célinonte, les épées des Celtibères, et le corail et l'escarboucle des Gaulois. Puis, continuant leur chemin, ils traversèrent la place où s'élevait autrefois une statue de Minerve, chef-d'œuvre de Phidias, et que par vénération pour l'ancien maître, on n'avait point remplacé. Ils prirent une des rues qui venait y aboutir, et, quelques pas plus loin, s'arrêtèrent devant un vieillard debout sur le seuil de sa maison. « Mon père, dit Actée, voici un hôte que Jupiter nous envoie. Je l'ai rencontré au moment où il débarquait, et je lui ai offert l'hospitalité. « Sois le bienvenu, jeune homme à la barbe d'or, répondit Amyclès. » Et poussant d'une main la porte de sa maison, il tendit l'autre à Lucius. Le lendemain du jour où la porte d'Amyclès s'était ouverte pour Lucius, le jeune Romain, Actée et son père, réunis dans le triclinium autour d'une table près d'être servi, se préparaient à tirer au dé la royauté du festin. Le vieillard et la jeune fille avaient voulu la décarner à l'étranger, mais leur hôte, soit superstition, soit respect, avait refusé la couronne. On apporta en conséquence les talis et l'on remit le cornet au vieillard qui fit le coup d'Hercule. Actée jeta les dés à son tour et leur combinaison produisit le coup du char. Enfin, elle passa le cornet au jeune Romain qui le prit avec une inquiétude visible, le secoua longtemps, le renversant tremblant sur la table, et poussa un cri de joie en regardant le résultat produit. Il avait amené le coup de Vénus, qui l'emporte sur tous les autres. « Vois, Sporus, s'écria-t-il en idiome latin, vois décidément les dieux sont pour nous, et Jupiter n'oublie pas qu'il est le chef de ma race. Le coup d'Hercule, le coup du char et le coup de Vénus, y a-t-il plus heureuse combinaison pour un homme qui vient disputer les prix de la lutte, de la course et du chant, et à la rigueur, le dernier ne me prêtait-il pas un double triomphe ?»« Tu es né dans un jour heureux, répondit l'enfant, et le soleil t'a touché avant que tu touchasses la terre. Cette fois, comme toujours, tu triompheras de tous tes concurrents. » Hélas, « il y a une époque, répondit en soupirant le vieillard, adoptant la langue que parlait l'étranger, où la Grèce t'aurait offert des adversaires dignes de te disputer la victoire. Mais nous ne sommes plus au temps où Milon de Crotoniate fut couronné 6 fois aux Jeux Pythiens et où l'Athénien Alcibiade envoyait 7 chars aux Jeux Olympiques et remportait 4 prix. » La Grèce, avec sa liberté, a perdu César et sa force, et Rome, à compter de Cicéron, nous a envoyé tous ses enfants pour nous enlever toutes nos palmes. Que Jupiter, dont tu te vantes de descendre, te protège donc, jeune homme, car après l'honneur de voir remporter la victoire par un de mes concitoyens, le plus grand plaisir que je puisse éprouver est de l'avoir favorisé mon hôte. Apporte donc les couronnes de fleurs, ma fille, en attendant les couronnes de laurier. » Actée sortit et rentra presque aussitôt avec une couronne de myrte et de safran pour Lucius, une couronne d'ache et de lierre pour son père, et une couronne de lys et de rose pour elle. Outre celle-là, un jeune esclave en apporta d'autres plus grandes que les convives se passèrent autour du cou. Alors Actée s'assit sur le lit de droite, Lucius coucha à la place consulaire, et le vieillard, debout au milieu de sa fille et de son hôte, fit une libation de vin et une prière aux dieux, puis il se coucha à son tour, en disant au jeune Romain « Tu le vois, mon fils, nous sommes dans les conditions prescrites, puisque le nombre des convives, si l'on en croit de nos poètes, ne doit pas être au-dessous de celui des grâces et ne doit pas dépasser celui des muses. Esclaves, servez la première table. » On apporta un plateau tout garni. Les serviteurs se tinrent prêts à obéir au premier geste. Sporus se coucha aux pieds de son maître, lui offrant ses longs cheveux pour essuyer ses mains, et le skissor commença ses fonctions. Au commencement du second service, et lorsque l'appétit des convives commença de s'apaiser, le vieillard fixa les yeux sur son hôte, et, après avoir regardé quelque temps avec l'expression bien vieillante de la vieillesse, la belle figure de Lucius, à qui ses cheveux blonds et sa barbe dorée donnaient une expression étrange, « Tu viens de Rome ?» lui dit-il. « Oui, mon père, » répondit le jeune homme. « Directement ?»« Je me suis embarqué au port d'Ostie. » « Les dieux veillaient toujours sur le divin empereur et sur sa mère ?»« Toujours. » »« Et César préparait-il quelque expédition guerrière ?»« Aucun peuple n'est révolté dans ce moment. César, maître du monde, lui a donné la paix pendant laquelle fleurissent les arts. Il a fermé le temple de Janus, puis il a pris sa lyre pour rendre grâce aux dieux. » Et ne craint-il pas que, pendant qu'il chante, d'autres ne règnent ? Oh ! Fit Lucius en fronçant le sourcil. En Grèce aussi, on dit donc que César est un enfant. Non, mais on craint qu'il ne tarde encore longtemps à devenir un homme. Mais je croyais qu'il avait pris la robe virile aux funérailles de Britannicus. Britannicus était depuis longtemps condamné par Agrippine. Oui, mais c'est César qui l'a tué, je vous en réponds, moi, n'est-ce pas, Sporus ? L'enfant leva la tête et sourit. Il a assassiné son frère ? S'écria Actée. Il a rendu au fils la mort que la mère avait voulu lui donner. Ne sais-tu pas, jeune fille ? Alors demande-le à ton père, qui paraît savant en ces sortes de choses, que Messaline envoyait un soldat pour tuer Néron dans son berceau, et que le soldat allait frapper lorsque deux serpents sont sortis du lit de l'enfant et ont mis en fuite le centurion. Non, non, rassure-toi, mon père, Néron n'est point un imbécile comme Claudius, un fou comme Caligula, un lâche comme Tibère, ni un histrion comme Auguste. Mon fils, dit le vieillard effrayé, fais-tu attention que tu insultes des dieux ? Plaisant Dieu par Hercule, s'écria Lucius, plaisant Dieu, qu'Octave qui avait peur du chaud, peur du froid, peur du tonnerre, qui vint d'Apollonie et se présenta aux vieilles légions de César en boitant comme Vulcain, plaisant Dieu, dont la main était si faible qu'elle ne pouvait parfois supporter le poids de sa plume, qui a vécu sans oser être une fois empereur et qui est mort en demandant s'il avait bien joué son rôle. Plaisant Dieu, que Tibère, avec son Olympe de Caprée, dont il n'osait pas sortir et où il se tenait comme un pirate sur un vaisseau à l'ancre, ayant à sa droite Thrasyle qui dirigeait son âme et à sa gauche Chariclès qui gouvernait son corps, qui, possédant le monde sur lequel il pouvait étendre ses ailes comme un aigle, se retira dans le creux d'un rocher comme un hibou, Plaisant Dieu que Caligula, à qui un breuvage avait tourné la tête et qui s'est cru aussi grand que Xerxès parce qu'il avait jeté un pont de Pouzol à Baïa, et aussi puissant que Jupiter parce qu'il imitait le bruit de la foudre en faisant rouler un char de bronze sur un pont d'airain, qui se disait le fiancé de la lune, et que Kéréa et Sabinus ont envoyé le 20 coups d'épée consommer son mariage au ciel. Plaisant Dieu que Claude, qu'on a trouvé derrière une tapisserie quand on le cherchait sur un trône, esclave et jouet de ses quatre épouses, qui signait le contrat de mariage de Messaline, sa femme avec Silius, son affranchi. Plaisant Dieu, dont les genoux ployaient à chaque pas, dont la bouche écumait à chaque parole, qui bégayait de la langue et qui tremblait de la tête. Plaisant Dieu, qui vécut méprisé, sans savoir se faire craindre, et qui mourut pour avoir mangé des champignons cueillis par Allotus, épluchés par Agrippine et assaisonnés par Locuste. Ha ha ! Les plaisants dieux encore une fois ! Et quelle noble figure ils doivent faire dans l'Olympe, près d'Hercule, le porte-massue, près de Castor, le conducteur de chars, et près d'Apollon, le maître de la lyre. Quelques instants de silence succédèrent à cette brusque et sacrilège sortie. Amyclès et Actée regardaient leur hôte avec étonnement, et la conversation interrompue n'avait point encore repris son cours lorsqu'un esclave entra, annonçant un messager de la part de Cnaeus Lentulus, le proconsul. Le vieillard demanda si le messager s'adressait à lui ou à son hôte. L'esclave répondit qu'il l'ignorait. Le licteur fut introduit. Il venait pour l'étranger. Le proconsul avait appris l'arrivée d'un navire dans le port. Il savait que le maître de ce navire avait l'intention de disputer les prix et il lui faisait donner l'ordre de venir inscrire son nom au palais préfectoral et déclarer à laquelle des trois couronnes il aspirait. Le vieillard et Actée se levèrent pour recevoir les ordres du proconsul. Lucius les écouta, couchés. Lorsque le licteur eut fini, Lucius tira de sa poitrine des tablettes d'ivoire enduites de cire, écrivit sur une des feuilles quelques lignes avec un stylet, appuya le chaton de sa bague au-dessous et remit la réponse au licteur en lui donnant l'ordre de le porter à Lentulus. Le licteur étonné hésita. Lucius fit un geste impératif, le soldat s'inclina et sortit. Alors Lucius fit claquer ses doigts pour appeler son esclave, tendit sa coupe que l'échanson remplit de vin, en but une partie à la prospérité de son hôte et de sa fille, et donna le reste à Sporus. « Jeune homme, dit le vieillard en interrompant le silence, tu te dis Romain, et cependant j'ai peine à le croire. Si tu avais vécu dans la ville impériale, tu aurais appris à mieux obéir aux ordres des représentants de César. Le proconsul est ici maître aussi absolu et aussi respecté que Claudius Néron l'est à Rome. As-tu oublié que les dieux au commencement du repas m'ont fait momentanément l'égal de l'empereur en m'élisant roi du festin ? Et quand as-tu vu un roi descendre de son trône pour se rendre aux ordres d'un proconsul ? Tu as donc refusé ? Dit Actée avec effroi. Non, mais j'ai écrit à Lentulus que s'il était curieux de savoir mon nom et dans quel but j'étais venu à Corinthe, il n'avait qu'à venir le demander lui-même. Et tu crois qu'il viendra ? S'écria le vieillard. Sans doute, répondit Lucius. Ici, dans ma maison ? Écoute, dit Lucius, qu'y a-t-il ? Le voilà qui frappe à la porte. Je reconnais le bruit des faisceaux. Fais ouvrir, mon père, et laisse-nous seuls. » Le vieillard et sa fille se levèrent étonnés et allèrent eux-mêmes à la porte. Lucius resta couché. Il ne s'était point trompé. C'était Lentulus lui-même. Son front humide de sueur indiquait quelle promptitude il avait mise à se rendre à l'invitation de l'étranger. Il demanda, d'une voix rapide et altérée, où était le noble Lucius, et dès qu'on lui eut indiqué la chambre, il mit bas sa toge et entra dans le triclinium qui se referma sur lui et dont les licteurs gardèrent aussitôt la porte. Nul ne sut ce qui se passa dans cette entrevue. Au bout d'un quart d'heure seulement, le consul sortit et Lucius vint rejoindre Amyclès et Actée sous le péristyle où il se promenait. Sa figure était calme et souriante. « Mon père, lui dit-il, la soirée est belle. Ne voudrais-tu pas accompagner ton hôte jusqu'à la citadelle, d'où l'on dit qu'on embrasse une vue magnifique ? Puisque je suis curieux de savoir si l'on a exécuté les ordres de César, qui, lorsqu'il a su que des jeux devaient être célébrés à Corinthe, a renvoyé l'ancienne statue de Vénus, afin qu'elle fût propice aux Romains qui viendraient vous disputer les couronnes. « Hélas, mon fils, répondit Amyclès, je suis maintenant trop vieux pour servir de guide dans la montagne. Mais voici Actée, qui est légère comme une nymphe et qui t'accompagnera. » « Merci, mon père, je n'avais point demandé cette faveur, de peur que Vénus ne fût jalouse et ne se vengeât sur moi de la beauté de ta fille. Mais tu me l'offres, j'aurai le courage de l'accepter. » Actée sourit en rougissant, et sur un signe de son père, elle courut chercher un voile et revint aussi chastement drapée qu'une matrone romaine. « Ma sœur a-t-elle fait quelque vœu ? » dit Lucius, « ou bien, sans que je le sache, serait-elle prêtresse de Minerve, de Diane ou de Vesta ?»« Non, mon fils, dit le vieillard en prenant le Romain par le bras et en le tirant à l'écart. Mais Corinthe est la ville des courtisanes, tu le sais. En mémoire de ce que l'intercession a sauvé la ville de l'invasion de Xerxès, nous les avons fait peindre dans un tableau comme les Athéniens, les portraits de leur capitaine après la bataille de Marathon. Depuis lors, nous craignons tellement d'en manquer que nous en faisons acheter à Byzance, dans les îles de l'archipel et jusqu'en Sicile. On les reconnaît à leur visage et à leur sein découvert. « Rassure-toi, Actée n'est point une prêtresse de Minerve, de Diane, ni de Vesta. Mais elle craint d'être prise pour une adoratrice de Vénus. » Puis, haussant la voix, « Allez, mes enfants, va, ma fille, continua le vieillard, et du haut de la colline, rappelle à notre hôte en lui montrant les lieux qui les gardent tous les vieux souvenirs de la Grèce. » Le seul bien qui reste à l'esclave et que ne peuvent lui arracher ses maîtres, c'est la mémoire du temps où il était libre. Lucius et Actée se mirent en route, et en peu d'instants, le Romain et la jeune fille eurent atteint la porte du nord et s'engagèrent dans le chemin qui conduit à la citadelle. Quoiqu'à vol d'oiseau elle parût à 500 pas à peine de la ville, il se repliait en tant de manières qu'il fut près d'une heure à le parcourir. Deux fois, sur la route, Actée s'arrêta, la première pour montrer à Lucius le tombeau des enfants de Médée, la seconde pour lui faire remarquer la place où Bellérophon reçut des mains de Minerve le cheval Pégase. Enfin, ils arrivèrent à la citadelle et à l'entrée d'un temple qui y attenait, Lucius reconnut la statue de Vénus couverte d'armes brillantes, ayant à sa droite celle de l'amour et à sa gauche celle du soleil, le premier dieu qu'on ait adoré à Corinthe. Lucius se prosterna et fit sa prière. Cet acte de religion accompli, les deux jeunes gens prirent un sentier qui traversait le bois sacré et conduisait au sommet de la colline. La soirée était superbe, le ciel pur et la mer tranquille. La Corinthienne marchait devant, pareille à Vénus, conduisant Énée sur la route de Carthage. Et Lucius, qui venait derrière elle, s'avançait au travers d'un air embaumé des parfums de sa chevelure. De temps en temps, elle se retournait, et comme en sortant de la ville elle avait rabattu son voile sur ses épaules, le Romain dévorait de ses yeux ardents cette tête charmante, à laquelle la marche donnait une animation nouvelle, et ce sein qu'il voyait haleter à travers la légère tunique qui le recouvrait. À mesure qu'il montait, le panorama prenait de l'étendue. Enfin, à l'endroit le plus élevé de la colline, Actée s'arrêta sous un mûrier, et s'appuyant contre lui pour reprendre haleine, « Nous sommes arrivés, » dit-elle à Lucius. « Que dites-vous de cette vue? Ne vaut-elle pas celle de Naples ?» Le Romain s'approcha d'elle sans lui répondre, passa pour s'appuyer son bras dans une des branches de l'arbre, et au lieu de regarder le paysage, fixa sur Actée des yeux si brillants d'amour que la jeune fille, se sentant rougir, se hâta de parler pour cacher son trouble. « Vous voyez, du côté de l'Orient, » dit-elle, « malgré le crépuscule qui commence à s'étendre, voici la citadelle d'Athènes, pareil à un point blanc, et le promontoire de Sunium qui se découpe sur l'azur des flots comme le fer d'une lance. » Plus près de nous, au milieu de la mer Saronique, cette île que vous voyez et qui a la forme d'un fer à cheval, c'est Salamine, où combattit Eschyle et où fut battu Xerxès. Et au-dessous, vers le midi, dans la direction de Corinthe, et à 200 stades d'ici à peu près, vous pouvez apercevoir Némée et la forêt dans laquelle Hercule tua le lion dont il porta toujours la dépouille comme un trophée de sa victoire. Alors plus loin, au pied de cette chaîne de montagnes qui borde l'horizon, est Épidaure, chère à Esculape, et derrière elle, Argos, la patrie du roi des rois. À l'occident, noyée dans les flots d'or du soleil couchant, au bout des riches plaines de Sicyone, au-delà de cette ligne bleue que forme la mer, comme des vapeurs flottantes sur le ciel, vous apercevez Samos et Ithaque? Et maintenant, tournez le dos à Corinthe et regardez vers le nord. Voici, à notre droite, le Cithéron, où fut exposé Édipe. À notre gauche, Leuctre, où Épaminondas bâtit les Lacédémoniens. Et en face de nous, Platée, où Aristide et Pausanias vainquirent les Perses. Puis, au milieu et à l'extrémité de cette chaîne de montagnes qui court de l'Attique en Italie, l'Hélicon, couvert de pins de myrte et de laurier, et le Parnasse, avec ses deux sommets tout blancs de neige entre lesquels coule la fontaine Castali, qui a reçu des muses le don de donner l'esprit portique à ceux qui boivent de ses eaux. « Ah oui, » dit Lucius, « ton pays est la terre des grands souvenirs. Il est malheureux que tous ces enfants ne les conservent pas avec une religion pareille à la tienne, jeune fille. Mais console-toi, si la Grèce n'est plus reine par la force, elle l'est toujours par la beauté, et cette royauté-là est la plus douce et la plus puissante. » Actée porta la main à son voile, mais Lucius arrêta sa main. La Corinthienne tressaillit, et cependant n'eut point le courage de la retirer. Quelque chose comme un nuage passa devant ses yeux, et, sentant ses genoux faiblir, elle s'appuya contre le tronc du mûrier. On en était à cette heure charmante qui n'est déjà plus le jour et pointe encore la nuit. Le crépuscule étendu sur toute la partie orientale de l'horizon couvrait l'archipel Hellatique, tandis que du côté opposé, la mer ionienne, roulant des vagues de feu et le ciel des nuages d'or, semblait n'être séparée l'un de l'autre que par le soleil, qui, semblable à un grand bouclier rougi à la forge, commençait d'éteindre dans l'eau son extrémité inférieure. On entendait encore bourdonner la ville comme une ruche. Mais tous les bruits de la plaine et de la montagne mouraient les uns après les autres. De temps en temps seulement, le chant aigu d'un pâtre retentissait du côté du Citeron, ou le cri d'un matelot tirant sa barque sur la plage montait de la mer Saronique ou du golfe de Crissa. Les insectes de la nuit commençaient à chanter sous l'herbe, et les lucioles, répandues par milliers dans l'air tiède du soir, brillaient comme les étincelles d'un foyer invisible. On sentait que la nature, fatiguée de ses travaux du jour, se laissait aller peu à peu au sommeil, et que dans quelques instants tout se tairait pour ne pas troubler son voluptueux repos. Les jeunes gens eux-mêmes, cédant à cette impression religieuse, gardaient le silence, lorsqu'on entendit du côté du port de Lecce un cri si étrange qu'Acté frissonna. Le Romain, de son côté, tourna vivement la tête, et ses yeux se portèrent directement sur sa birème qu'on apercevait sur la plage, pareil à un coquillage d'or. Par un sentiment de crainte instinctif, la jeune fille se releva et fit un mouvement pour reprendre le chemin de la ville. Mais Lucius l'arrêta. Elle céda sans rien dire, et comme vaincue par une puissance supérieure, s'appuya de nouveau contre l'arbre, ou plutôt contre le bras que Lucius avait passé, sans qu'elle s'en aperçût, autour de sa taille, et laissant tomber sa tête en arrière, elle regarda le ciel, les yeux à demi fermés, la bouche à demi close. Lucius la contemplait amoureusement, dans cette pose charmante, et quoiqu'elle sentît les yeux du Romain l'envelopper de leurs rayons ardents, elle n'avait pas la force de s'y soustraire, lorsqu'un second cri, plus rapproché et plus terrible, traversa cet air doux et calme et vint réveiller Acté de son extase. « Fuyons, Lucius, s'écria-t-elle avec effroi, fuyons! Il y a quelques bêtes féroces qui errent dans la montagne, fuyons! Nous n'avons que le bois sacré à traverser et nous sommes au temple de Vénus ou à la citadelle. Viens, Lucius, viens !» Lucius sourit. « Acté, craint-elle quelque chose ? » dit-il lorsqu'elle est près de moi. « Quant à moi, je sens que pour Acté, je braverai tous les monstres convaincus Thésée, Hercule et Cadmus. » « Mais sais-tu quel est ce bruit ? » dit la jeune fille tremblante. « Oui, répondit en souriant Lucius, oui, c'est le roquement du tigre. « Oh, Jupiter !» s'écria Acté en se jetant dans les bras du Romain. « Jupiter, prends les genoux !» En effet, un troisième cri, plus rapproché et plus menaçant que les deux premiers, venait de traverser l'espace. Lucius y répondit par un cri à peu près pareil. Presque au même moment, une tigresse bondissante sortit du bois sacré, s'arrêta, se dressant sur ses pattes de derrière comme indécise du chemin. Lucius fit entendre un sifflement particulier. La tigresse s'élança, franchissant myrte, chêne vert et laurier rose comme un chien fait de la bruyère, et se dirigea vers lui, rugissant de joie. Tout à coup, le Romain sentit peser à son bras la jeune Corinthienne. Elle était renversée, évanouie et mourante de terreur. Lorsqu'Acté revint à elle, elle était dans les bras de Lucius, et la tigresse, couchée à leurs pieds, étendait câlinement sur les genoux de son maître sa tête terrible, dont les yeux brillaient comme des escarboucles. À cette vue, la jeune fille se rejeta dans les bras de son amant, moitié par terreur, moitié par honte, tout en étendant la main vers sa ceinture dénouée et jetée à quelques pieds d'elle. Lucius vit cette dernière tentative de la pudeur, et détachant le collier d'or massif qui entourait le cou de la tigresse, et auquel pendait encore un anneau de la chaîne qu'elle avait brisée, il l'agrafa autour de la taille mince et flexible de sa jeune amie. Puis, ramassant la ceinture qu'il avait furtivement dénouée, Il attacha un bout du ruban au cou de la tigresse et remit l'autre entre les doigts tremblants d'Actée. Alors, se levant tous deux, ils redescendirent silencieusement vers la ville, Actée s'appuyant d'une main sur l'épaule de Lucius et de l'autre, conduisant enchaînée et docile la tigresse qui lui avait fait si grande peur. À l'entrée de la ville, ils rencontrèrent l'esclave nubien chargé de veiller sur Phébé. Il l'avait suivi dans la campagne et l'avait perdu de vue au moment où l'animal, ayant retrouvé la trace de son maître, s'était élancé du côté de la citadelle. En apercevant Lucius, il se mit à genoux, baissant la tête et attendant le châtiment qu'il croyait avoir mérité. Mais Lucius était trop heureux en ce moment pour être cruel. D'ailleurs, Actée le regardait en joignant les mains. « Relève-toi, Libicus, dit le Romain. Pour cette fois, je te pardonne, mais désormais, veille mieux sur Phébé. Tu es cause que cette belle nymphe a eu si grande peur qu'elle a pensé en mourir. Allons, mon Ariane, remettez votre tigresse à son gardien. Je vous en attellerai une couple à un char d'or et d'ivoire, et je vous ferai passer au milieu d'un peuple qui vous adorera comme une déesse. C'est bien, Phébé, allez, adieu. » Mais la tigresse ne voulut point s'en aller ainsi. Elle s'arrêta devant Lucius, se dressa contre lui, et posant ses deux pattes de devant sur ses épaules, elle le caressa de sa langue en poussant de petits rugissements d'amour. « Oui, oui, dit Lucius à demi-voix, oui, vous êtes une noble bête. Et quand nous serons de retour à Rome, je vous donnerai à dévorer une belle esclave chrétienne avec ses deux enfants. Allez, Phébé, allez !» La tigresse obéit comme si elle comprenait cette sanglante promesse, et elle suivit Libicus, mais non sans se retourner 20 fois encore du côté de son maître. Et ce que fut que lorsqu'il eut disparu avec Actée, pâle et tremblante, derrière la porte de la ville, qu'elle se décida à regagner sans opposition la cage dorée qu'elle habitait à bord du navire. Sous le vestibule de son hôte, Lucius trouva l'esclave cubiculaire. Il l'attendait pour le conduire à sa chambre. Le jeune Romain serra la main d'Actée et suivit l'esclave qui le précédait avec une lampe. Quant à la belle Corinthienne, elle alla, selon son habitude, baiser le front du vieillard, qui, la voyant si pâle et si agitée, lui demanda quelle crainte la tourmentait. Alors elle lui raconta la terreur que lui avait faite Phébé, et comment ce terrible animal obéissait au moindre signe de Lucius. Le vieillard resta un instant pensif, puis, avec inquiétude, « Quel est donc cet homme, dit-il, qui joue avec les tigres, qui commande aux proconsuls et qui blasphème les dieux ?» Actée approcha ses lèvres froides et pâles du front de son père, mais à peine osa-t-elle les poser sur les cheveux blancs du vieillard. Elle se retira dans sa chambre et tout est perdu. Ne sachant si ce qui s'était passé était un songe ou une réalité, elle porta les mains sur elle-même pour s'assurer qu'elle était bien éveillée. Alors, elle sentit sous ses doigts le cercle d'or qui avait remplacé sa ceinture virginale, et s'approchant de la lampe, elle lut sur le collier ces mots qui répondaient si directement à sa pensée : « J'appartiens à Lucius ».